Aïe, fait que, fait que, on se lance.
OK. OK.
Fait que bienvenue à Critique Exquise. On a repris ça, apparemment. On a recommencé, là, puis tout. Full time, esti. Je suis en compagnie de M. Tommy Godette.
C'est moi.
Puis de M. Bruno Corbin.
Effectivement.
Puis je pense qu'aujourd'hui, on va parler de Vast of Night. De The Vast of Night.
De The Vast of Night, effectivement. C'est comme ça.
C'est une suggestion de Bruno. Fait que, effectivement. Take it away, mon chum.
Ben, vous voyez, The Vast of Night, c'est un film que je suis allé voir. J'en ai parlé quand j'ai fait mon recap de Fantastic Fest, probablement. C'est un film que j'étais allé voir l'été dernier, ben, l'automne dernier à Fantastic Fest, et que je m'étais endormi dessus. Certains diront surprenamment, vous allez savoir pourquoi quand on va en parler, c'est un petit peu un film endormant. Et même je dirais, puis je veux dire, on s'entend, j'étais malade quand je l'ai vu, c'était tôt le matin, fait que tu sais, c'était pas les bonnes conditions pour regarder ce film-là. J'en avais parlé à l'époque aussi, mais je dirais que c'est peut-être un film qui même nous défie à rester réveillé par moment. Il y a des bouts où est-ce que c'est beaucoup de dialogue, et puis il y a des bouts où est-ce que parce que ça se passe sur un switchboard, puis ça se passe dans une radio principalement. L'action entre guillemets du film se passe dans ces deux environnements là,
en très gros guillemets.
Ouais. Donc on est devant un film qui ne tient que par tient beaucoup par la performance des acteurs. Tient beaucoup par l'intérêt qui est gardé de par ce qui est dit. Donc, il faut que les dialogues soient vraiment bons pour que ça marche. Et c'est le cas. Je pense que c'est le cas dans la majorité du film, mais c'est quand même un film que si t'es un peu endormi, regarde pas ce film-là. Il y a des bouts où est-ce qu'il parle, puis même il ferme les lumières dans le film. Fait que si tu regardes le film dans le noir, puis que t'es comme un petit peu endormi, à un moment donné, il y a un bout où est-ce qu'il y a un gars qui est en train de parler, puis la lumière descend. Puis là, il n'y a même plus d'image, il y a juste du son. Hey, c'est parfait pour s'endormir, ça. C'est une berceuse. Okay, fait que c'est un film que j'avais vu à cette époque-là. Je m'étais endormi dessus, je l'avais pas vu au complet, mais j'avais comme catch de Gist of It. J'avais aimé ce que j'avais vu. Fait que je me dis que ce serait le fun qu'on en jase au show ensemble pour recueillir vos commentaires sur le film aussi, parce que je pense que c'est un film c'est un premier film d'un réalisateur. Oui. C'est fait de façon extrêmement professionnelle, et c'est avec le budget qu'il y a eu pour faire ce film-là. C'est un film qui, je dirais, est exceptionnel, mettons, là, surtout pour un premier effort. Fait que ce serait le fun qu'on en parle, parce qu'on parle souvent de j'aime ça quand on parle de trucs plus indépendants, avec un côté plus intéressant du point de vue de la créativité par rapport au budget. Là.
Mais c'est Amazon qui a financé ou repris, je pense.
C'est Amazon qui a acheté, ouais, c'est ça.
Qui a acheté, OK, c'est ça.
Ouais.
Parce que j'ai été surpris. En fait, quand je suis allé sur le vidéoclub des internets, de voir que c'était Amazon, j'aurais pu juste aller sur mon compte Amazon.
Amazon Prime, oui.
Ouais, c'est ça.
Hey, j'en profite à ce moment-là pour mentionner que le logo de maison de production de Amazon Studio, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie, je pense.
C'est vrai que c'est un...
Le petit reel là, d'Amazon Studio, ça dure 10-12 secondes au début. Là. D'habitude, moi, c'est rendu que ça me fait juste rire depuis le film de Tim and Eric. Là,
mais, ouais.
mais là, je l'ai fait. Waouh, Chris, c'est de la belle animation. Ça fait... Je me rappelle pas la dernière fois que ça m'est arrivé. Là.
Ah, ben c'est cool, ça.
Ouais.
Moi, d'entrée de jeu, effectivement que le film est très endormant. Mais pas endormant, mais faut que tu sois réveillé. Parce qu'effectivement, si tu ne l'es pas, ça va être rough. Mais le plus gros gripe, je pense, que j'ai, c'est que les 15 à 20 premières minutes du film, c'est beaucoup, beaucoup de dialogues qui n'ont pas nécessairement un impact sur le film, j'ai l'impression. Ça te met un peu ça t'introduit les personnages, comment ils sont, comment ils agissent, comment ils se parlent entre eux autres, leurs relations. Mais c'est beaucoup... Il parle vite, puis il en dit des affaires, puis à un moment donné, tu perds intérêt parce que c'est trop, tu sais. S'il y avait cut back un petit peu sur les dialogues au début, je pense que ça aurait été plus facile. Moi, je jouais à Magic en même temps, fait que je me suis plus concentré sur ce que je faisais que le début, mais à un moment donné, tu sais, vers à peu près la 20e, 22e minute, j'ai commencé à plus écouter ce qui se passait. Puis les bouts de noir, je peux comprendre peut-être l'attrait artistique, mais c'est un gros turn-off, je pense, pour la majeure partie du monde qui vont regarder des films. Là,
moi, ah, c'est sûr.
Moi, ça me dérange pas tant que ça. C'est peut-être pas un film que je regarderai une deuxième fois, parce que je vois pas l'intérêt. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à comprendre ou à retirer de ça, mais j'ai quand même apprécié. T'sais.
OK. Moi, je dirais, je te dirais, je pense qu'il se passe plus de stock qu'on pense dans le dialogue au début. C'est vrai que c'est vraiment c'est beaucoup de dialogue qui sert effectivement à établir la personnalité de ces personnages-là, leurs relations, etc. Mais je pense qu'il y a des informations narratives et thématiques qui sont données dans ces dialogues-là. Je parlerai, mettons, puis là, mettons, spoilers, là, mais quand, par exemple, il parle de son tape recorder, puis juste le fait ouais. qu'elle veut pas le laisser à personne d'autre, puis qu'elle veut tout le temps le garder avec elle, puis c'est son nouveau tape recorder, puis elle aime vraiment ce tape recorder-là. Le fait qu'à la fin, ce soit la dernière image, c'est le tape recorder laissé tout seul dans le sable, je pense que ça a un lien narratif thématique important ici, tu sais, l'enregistrement, l'idée d'enregistrer les choses, de la mémoire un peu, se rappeler des affaires qui se sont passées. Je pense que c'est un film qui parle de ça aussi. Là.
Mais, oui, mais tu vois, moi, j'ai pas vu ça justement parce qu'il y avait tellement de dialogues en accéléré pendant cette période-là mm-hmm. que je pense que c'est facile de perdre un peu l'importance. Ce qui est important puis ce qui est pas important, tu sais.
Sure, je comprends ton point de vue. Moi j'ai trouvé au contraire en fait que ça apportait quelque chose justement. Le film est pas en train de te dire, écoute ces informations là, c'est les informations qui vont être importantes plus tard. Le film te dit, regarde ces deux personnages là, comment ils interagissent, puis aussi check, je te sneak in des affaires qui vont revenir plus tard dans le film. Moi je pense même que le film a probablement probablement un deuxième puis un troisième niveau qui est intéressant à essayer de revisiter mettons thématiquement ce film là parce que tu sais juste du fait que tu regardes un film, moi déjà, tu sais, je me souviens là, la première fois que je l'ai vu, puis là, quand je l'ai regardé aussi, les deux fois, quand j'ai regardé ce film-là, une des premières affaires que tu remarques, c'est « Wow, tu sais, c'est un film qui se passe dans les années 50, puis effectivement, tout le monde est blanc.
Oui. »
Tout le monde est blanc dans ce film-là. Sauf un personnage qu'on voit pas.
Exact.
Qu'on voit pas.
Noir.
Qui est dans le noir, ouais.
Ben moi, j'ai trouvé que le setting, c'était pratiquement un des personnages, là, dans mm-hmm. le sens que on sent rapidement que c'est pas dans les années 50, dans l'espèce de folie d'après-guerre, que tout allait bien, entre guillemets, qu'il y a eu des gros booms, que tu sais, cette technologie-là, je pense que le contraste entre le fait qu'elle a été capable de se payer un tape à cassette pour comme immortaliser ses pensées, puis aussi diffuser ses idées, c'est comme pour un tremplin pour en venir à trouver le vaisseau spatial à la fin encore plus magnifique et grandiose. Je pense que le setting de cette période d'après-guerre-là s'y est bien à une finale qui nous montre que, dans le fond, on commence un petit peu à la 2001, Odyssée de l'espace, quand ils trouvent le monolithe, c'est quand ils inventent les outils au début, puis après ça, c'est quand qu'on sort de notre... Tu sais, c'est les étapes importantes, mais je pense que...
De l'évolution, ouais.
Ouais, c'est ça. Je pense que le tape cassette, la petite, que ce soit dans les mains d'une petite aussi, qui a l'avenir devant elle, que ce soit un enfant qui a été kidnappé aussi, l'enfant de la vieille, je pense que c'est tout pour montrer qu'on se pense bien fin, mais que dans le fond, on est encore vraiment des enfants dans cette game de comprendre l'univers, de comprendre le monde, puis même de
comprendre puis de s'approprier la technologie qu'on crée nous-mêmes. Là.
Exactement, c'est là que je m'en allais. Je trouvais que le souci amené à la reconstitution en met justement rajoute à la valeur de de la technique peut-être des extraterrestres ou du potentiel qui est... parce que tu sais je pense pas que c'est le fait que ce soit des extraterrestres qui soient c'est plus la technologie qui amène avec eux autres. Je pense que c'est un film qui échange beaucoup à ce niveau-là. Mm-hmm. J'ai reconnu plusieurs thématiques de 2001 Odyssée de l'espace. Ça, c'est même dans les dialogues des fois, dans les manières qui gardent ça tout le temps comme dans la technique plus que dans l'humain, genre. Mm-hmm. Tu sais, ouais, t'es assez fort pour m'envoyer ton signal puis toutes ces affaires-là. Oui, c'était lourd au début. J'ai pas trop compris le basketball. J'ai l'impression que si là je suis en train de parler de technique, l'idée qu'il y ait du basketball, c'est un petit peu comme la cage humaine, là, tu sais, que c'est la zion de la matrice, mettons. Là. C'est,
ben ouais, je pense que ça avait pas besoin d'être du basketball. D'après moi, ils ont choisi le basketball parce que c'est le sport qui était populaire dans les écoles secondaires à cette époque-là.
Et pour sûrement aussi en rajouter sur l'espèce de sous-lecture de thématique raciale, parce qu'il n'y a aucun des joueurs de basket qui est noir. Ça rajoute vraiment un gros contraste avec le basketball collégial de nos jours.
Ah, c'est vrai que
haut pourcentage noir.
C'est clair que effectivement c'est comme si t'as pas encore remarqué que tout le monde est blanc dans le film quand tu vois les deux équipes de basket puis tout le monde est blanc, tu fais comme ok, ça c'est weird par exemple.
c'est ça. Il faut pas que t'aies vu beaucoup de basket. En somme, je pense que c'était un très bon premier effort, mais je pense que ça aurait été plus efficace, moins long. Puis, tu sais, c'est pas super long, là. C'est
89 minutes.
On est dans le très raisonnable. Mais je pense que ça aurait pu être plus efficace, moins long. Je pense que je dis ça de même. Je sais pas ce que j'aurais coupé parce que les bouts, ça devient noir, comme vous parliez au début. Je pense que c'est pour, justement, mettre l'emphase sur le fait que, ce que le film essaie de nous passer, c'est surtout des informations plus que tu sais du blabla mettons plus que des images ou que pour rajouter justement au contraste à la fin quand on voit le vaisseau spatial qui est majestueux puis grandiose. Mm-hmm. Je pense que le film nous prépare pas mal d'un bout à l'autre à cette vision là, autant dans les commentaires des gens que des membres du film, là, surtout ceux qui parlent off screen ou même la vieille madame qui demande d'aller chez eux puis on sait pas s'il est déluré, puis même quand on voit le vaisseau, on sait pas s'il est déluré encore.
On sait pas si parce qu'elle a vécu, entre guillemets, cette histoire-là, c'est véridique. Si il y a un vaisseau pareil, ça veut pas dire que ce qu'elle dit, c'est elle a vécu.
C'est ça.
Puis il demande à la fin, il dit, avez-vous entendu le même signal? C'est-tu le même signal qu'on a entendu à la radio? Puis elle dit non, mais je suis sûr que c'est lié. Fait que, tu sais, juste cette phrase d'information-là, ça ouvre vraiment deux branches de possibilités qui peuvent se rejoindre aussi.
Puis même, je veux dire, tu lis simplement ce personnage-là. Ce personnage-là, c'est un personnage qu'on connaît pas, que même c'est établi que personne dans la ville connaît ce personnage-là même. C'est une reclue qui a pas parlé à personne depuis des dizaines d'années, tu sais.
Ouais.
Puis elle parle de concept un peu, de « Ah, ils peuvent nous contrôler mentalement, tu sais, puis c'est eux autres qui orchestrent toutes les guerres, puis que, tu sais, ça part vraiment comme dans le gros conspiracy theory à un moment donné, là, tu sais, là, ça part dans la grosse patente, tu sais. Puis tout ça, après ça, tu sais, la phrase qu'elle dit, à quoi sert cette phrase-là pour vrai? Est-ce que c'est pour démasquer du monde qui sont contrôlés par des extraterrestres, ou est-ce que c'est quelque chose qui marche pour contrôler? Est-ce que c'est un plan des extraterrestres, cette fille-là aussi, ce madame-là? Peut-être qu'elle aussi, dans le fond, est contrôlée et toutes les informations qu'elle donne, c'est des informations qui sont contrôlées.
Effectivement. Il y aura jamais manière de le savoir.
Non, c'est ça.
Le film n'essaie pas de répondre à ces questions-là. Puis je pense aussi que ça en rajoute. Tantôt, je parlais du fait que c'est la période d'après-guerre. Il y a eu beaucoup de projets d'imagination grandiose. La ville de Walt Disney qui amenait comme une relecture du concept d'agglomération. tu sais, ça a été vraiment une époque faste dans l'humanité, les années 50, jusqu'à, mettons, peut-être la guerre du pétrole fin 70. Puis je trouve que de rajouter cette espèce de spectre de d'idéal à atteindre que le film nous promène d'en face là, ouais, une couple de fois, je trouve que ça, justement, ça amplifie le message final, voilà, le ouais, fait que elle, tu sais, ça tient, le film tient compte des théories du complot, puis à la fin il y a des extraterrestres, mais on se sent pas pris par la main, fait que je trouve que c'est une belle réussite, là, vraiment, bonne job, ouais, là, c'est comme tu dis, je te comprends facilement d'être endormi un matin dans une salle de cinéma qui est climatisée puis qui fait chaud en crisse à l'extérieur puis toutes ces affaires-là.
Ouais.
Mais au final, là, ouais, j'ai été surpris. Puis les acteurs aussi, je me rappelle pas avoir vu ça, mais c'était du bon monde, là. Ouais. Sur Wikipédia, on voit qu'il y a juste cinq...
Il y a juste la fille qui a vraiment... Tu sais, dans les deux acteurs principaux, il y a juste la fille qui a fait plus que deux films, tu sais.
Ouais, okay,
le gars, il a fait, c'est genre son troisième film, puis les deux autres... C'est pas...
She first became known for participating on the game show Are You Smarter Than a Fifth Grader? Fait que la télé-réalité peut donner des...
Ouais, c'est des comédiens. J'ai vu... J'ai checké un petit peu aussi de l'info des Q&A, des trucs comme ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, que le tu sais, lui, il a une shot, une long take, un one-er de 5 minutes où est-ce qu'il met de la bobine de tape dans un tape, tu sais, puis il fait marcher des tapes, puis elle a un one-er de 10 minutes où est-ce qu'il est sur un switchboard, puis elle appelle du monde, tu sais. Puis ils ont passé une semaine et demie à pratiquer ça dans une chambre d'hôtel avant de tourner le film. Okay. Parce que le réalisateur leur a dit, le montage vous aidera pas, là. Il faut que vous sachiez comment faire ça. C'est super intéressant parce que ces deux technologies-là, c'est des technologies qui sont mortes, je dirais. Mettons, le tape recorder, ça agonise, puis le switchboard, c'est une technologie qui est relativement complètement morte, ou du moins là, ici. Là. C'est super intéressant de voir ça, de voir le souci du détail qui a été mis là-dedans. Puis justement, tu parlais de la technologie. Il y a cette idée-là aussi de... Tu as une technologie que tu comprends, que ce personnage-là comprend, tu sais. Fait que la fille qui est sur le switchboard, tu sais, tu vois qu'elle comprend vraiment la technologie avec laquelle elle est en train de travailler. Mais nous, en la regardant, on trouve ça un peu fascinant, même. À quel point elle est bonne, à quel point elle est vite, à quel point elle comprend tout ça. Puis on est comme, comment ça marche, cette affaire-là, exactement? On essaye un peu de comprendre comment un switchboard, ça marche pendant qu'on la regarde travailler avec le switchboard. Puis je pense que ça aussi, tout cet aspect-là, puis la même chose avec lui, puis les bobines de tape, tu sais, tout cet aspect-là de voir le skill, puis d'avoir cette fascination-là pour quelqu'un qui est bon dans une technologie, qui revient encore au message un peu de, il y a comme, c'est un peu un film qui essaye de nous présenter une fascination pour la technologie parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde hyper technologisé, même si on comprend pas la technologie qui est mise devant nous, on n'a pas peur de l'utiliser, tu sais.
Ouais.
Si je te mets en avant d'un switchboard, puis je te dis, c'est toi qui t'occupe du switchboard, tu n'auras aucune idée comment runner un switchboard. Ça va te prendre probablement des heures à finir par catcher, puis à te créer une routine, puis à comprendre comment faire marcher un switchboard, tu sais. Mais si je te donne, toutes les technologies sont présentées maintenant un peu de la même manière au public, fait qu'on comprend pas c'est quoi. Ben puis, oui, on n'est plus fasciné par ça non plus. T'sais.
J'ai download comment mes drivers là, sur la suite.
Mais c'est aussi, tu sais, que notre technologie, c'est quelque chose qui est pensé par des gens vastement plus intelligents que nous autres.
Mm-hmm.
Mais que quand tu regardes, mettons, ton téléphone, ce sur quoi tu utilises des affaires, c'est facile à comprendre parce que c'est tactile ou habitué à ça. Mais tout ce qui est en arrière, tu sais, il n'y a pas grand monde qui... mais mettons que c'est une minorité, si on prend la population globale de la planète, qui saurait comment faire fonctionner ça.
T'sais. Bon, t'aurais pu dire, il n'y a pas grand chose sur le certain. Ça se répare même plus, ça c'est particulier aussi, parce que la technologie de cette époque-là, de l'analogue, c'est des affaires que tu peux comme l'ouvrir, tu vois qu'il y a une souture de lâcher, tu la refais, vois que tu peux aller au Edison, t'acheter un socket de de un câble un 8, puis là, tu le changes. Puis,
tu peux mettre de la mélasse sur ta strap pour qu'elle colle dans le mécanisme.
Voilà. Et voilà, ça, c'est un bon truc. Mais c'est toutes des affaires, ça n'existe plus. Là, ça, ouais. Je me rappelle quand j'ai acheté mon premier vidéo en 95 à Val-d'Or, le vendeur de vidéos, il a dit « Bientôt, on servira plus à rien parce que ça n'existe plus, les réparations. » Tout, tu sais, t'ouvres la machine, t'enlèves le casing, puis là, t'as plusieurs comme sections, puis là, s'il y a une section qui marche plus, ils vont juste enlever la section, l'acheter, puis en mettre une nouvelle qui marche de la même affaire. Et en 95, à Val-d'Or, ce gars-là avait vu l'avenir parce que de nos jours, si tu vas faire réparer ton téléphone, ben, ils te disent « Ajoute-en un neuf » ou… Ça
existe, ben, ça va te coûter plus cher, là, tu sais, faire réparer ton téléphone que d'en acheter un neuf.
On est rendu là. C'est particulier, mais ce film-là n'est pas là parce qu'à la fin, elle jette son affaire, mais après ça, elle va la ramasser puis elle va la réparer en esti parce qu'il va y avoir des shit intéressants. À moins qu'elle se fait pas amener dans l'espace pour aller rejoindre le fils de la vieille. Là. On ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait pas, on ne sait pas.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une espèce de substance sableuse ou de truc brûlé, puis le tape recorder.
Effectivement.
Ouais. Ouais.
Puis toi, tu penses qu'ils sont tous morts? Toi, tu penses qu'ils sont morts? Toi?
Écoute, on pourrait théoriser que leur esprit a été pris par le vaisseau spatial, puis que leur corps a été atomisé et resté là à jamais.
OK.
Qui sait?
OK.
Comme tu sais, comme il y a comme des cendres qui restent en arrière, c'est facile à comme arriver à cette conclusion là, tu sais. Puis que toute substance non biologique a pas été transférée ou atomisée, tu sais. C'est pour ça que le tape recorder est encore là, tu sais.
Ça super nostalgie.
Ah, c'est intéressant, mais moi je te dirais je dirais la même chose, mais plus si on en parle depuis tantôt, plus d'un point de vue thématique. Je pense que ce que les extraterrestres sont intéressés à sauver, c'est la technologie, c'est pas l'humanité. Fait que ils préservent la technologie, ils préservent nos outils technologiques pour la Terre, tu sais, mais mais les humains qui s'en servent, soit ils les amènent pour les étudier ou tu sais, fait qu'eux autres, par exemple, ce qui est intéressant de ces personnages-là, c'est que les deux sont des experts dans un type de technologie.
Ouais.
Oui, effectivement.
Puis les deux sont transportés, ils sont les deux, je sais pas si ça a été orchestré encore, tu sais, peut-être que ça a été orchestré, peut-être que ces deux-là, c'est orchestré par les extraterrestres, que ça va être les deux qui vont se faire enlever. Puis elle dit même, tu sais, ils vont voir les gens qui sont tout seuls, ils attendent que tout le monde soit à la même place. Fait que la game de basketball, c'est pour ça, c'est pour que tout le monde dans la ville est à la même place, sauf ces deux personnages-là.
Puis
le bébé.
Mais pourquoi le bébé? C'est quoi la signification du bébé? Pourquoi est-ce qu'elle va à cet endroit-là, elle prend le bébé, elle part avec, puis dans la même lignée, tu sais, la phrase que la grand-mère leur a donnée ou leur a montrée, quand ils la font jouer, il y a juste les adultes qui sont affectés.
Ouais. Ouais.
Moi, je suis sûr et certain que c'est comme je disais au début, là, c'est que c'est pour représenter le fait que c'est la jeunesse, la relève, que l'humanité est en train de changer pour symboliser le fait que ceux de demain, les plus jeunes, vont plus pouvoir s'en sortir dans ce monde de plus en plus technologique. Là, c'est un message que je reconnais beaucoup aussi, comme je disais tantôt dans 2001, Odyssée de l'espace.
Ouais.
J'ai vraiment l'impression que les deux films se rejoignent au niveau de ces thématiques-là.
Ouais, vraiment.
Puis le bébé, sa seule utilité, c'est de représenter le fait que les deux héros, c'est pas la fin, tu sais, qu'il va encore en avoir des plus jeunes, des meilleurs avec les technologies qui vont arriver ensuite. Là.
Ouais. Okay. Makes sense. J'aime ça. Bon.
Fait que sinon, c'est quoi? C'est un film de 2020, ça?
2019, mais il est sorti sur Amazon en 2020. Là.
Ah, voilà. Ça prend un distributeur pour être vu. Hein. C'est ça. Un petit peu rendu ça. Sinon, il y a un budget de production ici. C'est quoi? De 700 000 piastres.
700 000 piastres tourné en 17 jours.
Ouais,
sacrement.
Ouais. Belle réussite. Là. Ouais. Ça a dû prendre quand même pas mal de... de pré-prod. Là. Il y a, parce que les props sont vraiment de qualité. Là, au début, ouais. Les chars parqués, moi, je...
Ils ont
pas chars, là, mais ouais. Des reconstitutions historiques. Mm. Je fais toute attention de regarder ça. Ouais.
Ben, je sais qu'ils sont, ils ont loué des chars puis ils s'en sont servis pour cacher des affaires dans la ville qui avaient de l'air moderne.
Ah, c'est pas fou.
C'est très stratégique. Puis aussi, c'est une toute petite ville au Texas. Puis ils ont comme convaincu le chef de police de les aider. C'est la police municipale qui a couvert les rues de sable puis qui a enlevé le sable des rues à la fin de leur production. Fait que ça leur a rien coûté. Puis toutes les propriétaires de commerce qui étaient sur la route de la shot, là, la méga shot du film, ils ont tous accepté d'enlever leur signe, leur pancarte moderne de leur storefront pour pas qu'elle apparaisse dans le film. Ils ont repeinturé des affaires pour que ça ait plus l'air des années 50.
Wow,
puis la long shot, tu t'imagines comment qu'ils ont fait ça? C'est vraiment, je sais qu'il y a un bout de la shot que c'est un jeune de 18 ans qui conduit un go-kart. Là.
Ouais.
Nice. aussi, ils ont quand même utilisé tous les éléments pour que ça coûte le moins cher possible. C'est la nuit. Ouais. C'est pas super éclairé parce que j'étais pas né dans les années 50, mais j'imagine qu'il n'y avait pas de lumière comme on a aujourd'hui.
Il y avait moins de LED. Il y avait pas mal moins de LED. Les néons, là, non merci. Mais
ils ont été très... j'ai crafty là en anglais.
Ouais, stratégique, là, stratégique, disons. Hein. Ouais.
Rusé.
Rusé, ouais.
Rusé, voilà.
Rusé, ouais. Mais c'est le fun de ça, ce concept-là, là, de comme que la ville, tu sais, je disais tantôt que le setting, c'était presque un personnage, mais là, ben quand tu me dis que toute la ville a participé, je trouve ça cool. Ça, tu sais, c'est pas nécessairement une pub pour la shop qui a accepté d'enlever la pancarte de son magasin, mais ça, c'est une pub certainement pour la ville, puis c'est un beau mouvement motivé de monde qui se sont impliqués dans un projet indie d'un gars que je sais pas s'il vient de cette ville-là ou d'ailleurs.
Il vient de l'Alabama, lui, en fait. Il vient même pas du Texas.
D'ailleurs, il a juste trouvé du bon monde que ça lui tentait d'embarquer. Ça me fait penser un petit peu à, vous allez rire, là, mais à Bloodsuckers from Outer Space.
Ouais, ben oui, c'est ça. J'étais sûr que t'allais en parler. Je l'aurais mentionné. Mais moi aussi, quand j'ai entendu cette anecdote-là, j'ai fait comme, c'est comme Bloodsuckers from Outer Space, mais bon.
Pour les auditeurs, Bloodsuckers from Outer Space, c'est un film d'horreur de 87, je pense. Puis c'était comme le projet
84.
du... Ouais, voilà. Puis c'était comme le projet du petit génie du village qui avait des études à l'extérieur. Puis quand il est revenu chez eux, il a demandé à tout le monde dans le village, ça vous tente-tu de faire un film de zombies? Puis tout le monde a embarqué. Puis le résultat est très campy, nono, mais
c'est excellent.
C'est drôle. Tu sais,
c'est moins, c'est très...
7 moins 8. Là, ouais. C'est ça. Fait que oui. Ben là, s'il faut donner une note à ce qu'on vient d'écouter pour passer à d'autres choses, on a-tu fini? Moi, rien à dire là-dessus. Là.
Non plus. Bah, hein. D'accord.
On tourne la page. Vas-y, Bruno.
Ben, moi, c'est une claire recommandation, en tout cas. Là, puis je dirais au moins plus 7. Là. On est dans le plus haut que plus 7, je dirais. Là.
Ah ouais, bon.
Surtout avec comme quand tu penses en contexte, puis que c'est vraiment aussi c'est le genre de film que j'aime beaucoup, puis c'est un rare film qui prend le genre dans lequel il est au sérieux aussi, que j'ai vu récemment, qui fonctionne. Fait que ouais, moi j'étais plus 7. Là.
C'est pas souvent qu'on a de la science-fiction de cette époque-là. Souvent, il va avec du CGI à fond, puis blabla. Mais ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça bon. Je serais peut-être plus à 6,9, là, mais dans ces eaux-là.
J'étais à 3 sur 5, 3,5 sur 5.
Fais donc ton x2 tout seul qu'on utilise la même échelle.
Comme ça, personne donne la même cote, c'est excellent.
Fait comme ça, c'est moins compréhensible pour le monde qui nous écoute.
Ben oui, parce que c'est tellement subjectif de toute manière.
Fait
que
Milan,
n'importe quelle cote que je veux.
Plus 7. Milan vient de dire plus
7. Plus 6, plus 7, ouais, c'est ça.
C'est ça.
J'étais à 3 sur 5, je recommande.
Hey, sinon, moi, je sais pas si vous avez vu Velvet Buzzsaw. On,
Non, c'est ça. Mais non, je ne l'ai pas vu. Ouais, non, c'est ça.
Bon, ben, je vais vous le laisser. Hey, j'aimerais ça vous parler de quelque chose que j'ai vu dernièrement, par contre. Une affaire de qualité et vraiment extrêmement surprenante. Je ne m'attendais pas à ça. Ça s'appelle, pas de joke, là. Ça s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupidon.
Oh boy! Ouais, 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 ok.
Comment t'écris Nicky Larson?
C'est-tu City Hunter? C'est le film de City Hunter?
Ouais. Et attention, c'est pas le film de City Hunter, parce qu'il y en a eu plusieurs des films de City Hunter. Mais celui-là, c'est un gars qui s'appelle Philippe Lachaud, qui l'a produit, ben, qui l'a réalisé et qui joue le rôle de Nicky Larson. C'est un film 100% français sur une franchise 100% japonaise avec des thématiques beaucoup plus orientales qu'occidentales. Si on se souvient des coups de masse que la fille donnait, se permettait de crisser au gars, au héros. Mm-hmm. Et donc, c'est une histoire. Il y a Didier Machin aussi, là, celui qui était dans Les Inconnus, là, qui a une face bizarre. Là, dans la machine.
Didier Bourdon?
Ouais, je pense que c'est ça. Il est dedans aussi. Et sérieusement, c'est dans les meilleures chorégraphies de combat que j'ai vues de cette année. J'étais à terre. C'est tight, c'est bien fait. Puis tu sais, Nicky Larson, on va se le dire, c'est une espèce de personnage qu'il est tellement pas bon pour cruiser que ça rajoute au contraste avec le fait qu'il est extrêmement compétent dans tout le reste de ce qu'il fait. Et les combats sont hallucinants. Il vise, tu sais, des fois, il tire des balles, puis le jeu de caméra autour de la balle avec le ralenti et tout, c'est... On a ri vraiment souvent, puis fort. La distribution était right on. Puis l'histoire, ben, vous l'avez compris juste par le titre, c'est un parfum qui rend les gens amoureux de ceux qu'ils portent. Et c'est super campy. J'ai ri vraiment souvent. Je vous conseille donc Nicky Larson et le parfum de Cupidon.
C'est drôle parce que cette série-là aussi, ça a été comme c'était comme la série animée qui était la plus populaire en France pendant vraiment longtemps. Puis même le public français a comme un peu gardé cette série-là en vie parce qu'il en voulait tellement que le Japon continue à en produire, même si ça marchait pas tant que ça au Japon, parce qu'en France, ça marchait en malade.
Puis, ouais. Je comprends pas pourquoi, genre, c'est... me semble que c'est tellement oriental de la manière que c'est présenté, que le gars soit... Ben voilà, ça, écoute, ça a fait ça. Puis sinon, il y a aussi un autre film d'animation, parce que je suis tombé sur ce film-là, il y a quelqu'un qui est venu ici, qui a dit « Hey, tu checkeras ça, il est vraiment bon, le nouveau Nicky Larson. » Puis là, ben, j'ai checké, puis là, on l'a écouté, puis il a fait « Ouais, mais c'était pas lui, je parlais. » Je fais « Quoi, il y en a un autre nouveau Nicky Larson? » Fait que oui, il y a une autre animation en 2020. Celle-là, je l'ai pas vue encore, je pourrais pas vous en parler, mais avec la qualité que Philippe Lachaud, il est tellement ride on dans le rôle du gars. Il y a une face de veg en permanence. Tu sais, je vous le conseille fortement, le nouveau Nicky Larson. On pourra en parler plus peut-être ou parler d'autres choses. Là. Moi, ça book mon affaire. Là. J'ai écouté aussi Cop Dog. Peut-être que ça vous mette. Oh shit, mon gars, c'était pas bon.
C'est un fantôme, right?
C'est plus comme oui.
C'est Cop Ghost Cop Dog.
Oui, c'est
Ghost Cop Dog.
Ouais. En fait, il y a un kid vraiment extra fromage qui perd son père qui était policier et une année plus tard, ils s'en vont voir le chien policier du vieux qui est rendu comme bummed out puis déprimé dans sa cage. Fait que là, le kid, il dit « Hey, on pourrait l'adopter. » Puis là, le gars, il dit « Ben, tu peux pas parce que c'est un chien policier. Tu » sais. Puis il fait « Bon, on est une famille de policiers. » Fait que là, il l'adopte. Et le chien, ça prend un après-midi et il court après les méchants qui ont gardé le chapeau du père de l'année passée puis tout, puis qui l'ont comme tué par la bande. Et en courant après le troc des méchants, le chien se fait lutter et il meurt.
Et il devient... un fantôme.
Oui, là, à ce moment-là, on se dit, ben voyons, tout ce qui aime le kid finit par mourir, arrête, là, tu sais. Et là, le vieux monsieur, là, tu sais, le cinquième personnage, là, vient vient donner un sifflet pour chien au guide, puis dit ça, c'était le sifflet pour chien de ton père. J'espère qu'il va t'aider à te digérer. Fait que là, le kid essaye, et là, il y a du CGI vraiment poche, qui invoque le chien qui revient pour aider le kid à retrouver les deux méchants qui ont par la bande. Tu sais, c'est que dans le fond, ils ont, les deux méchants, ils ont une espèce de cache dans le bois où tout le monde passe. J'ai pas compris pourquoi c'était là. Et dans l'histoire, ce serait que le père aurait comme trouvé la cache. Fait que là, les deux, ils l'ont juste embarré dedans, puis ils sont partis, puis ils ont attendu qu'ils crèvent de faim pour aller le sortir. C'est un petit peu un assassinat. Mm-hmm. Et en fait, le bout le plus cave du film, et pour lequel on va se souvenir de la patente, c'est que il y a un des deux méchants qui est un petit peu plus crédule puis qui croit aux fantômes que l'autre qui est plus méchant puis qui croit pas aux fantômes, qui colle de la gomme sur l'arbre à côté de leur trappe secrète. Et là, les kids, ils spotent qu'il y a la trappe secrète, ils voient la gomme, ils se disent, bon, la gomme, blabla. Fait que vu que la fille qui est l'amie du kid, elle est championne en chewing-gum. Ils arrachent toutes les gommes. Ils vont les goûter chez eux. Ils regoutent les gommes pour savoir c'est quelle marque de gomme. Puis après ça, ils s'en vont au dépanneur avec une liste. Puis ils attendent que quelqu'un rentre pour acheter toutes ces marques de gomme-là. Ce qui prouve hors de tout doute.
Ben oui.
Que c'est le méchant après lequel ils ont accouru. Puis là, après ça, à partir de là, le chien s'en va, il revient pour des leçons de courage. C'était épais en tabarnak.
Ouais. Écoute, quand tu parlais de la gomme, j'ai zoné hors pendant au moins 3 secondes, mais j'ai tout compris pareil.
C'est, oui, c'est un petit peu fait beau. Puis vous autres, ben, c'est vous autres, là. Moi, je vais te parler
ben, écoute, de deux enfants. Tu parlais d'un film français. Moi, hier, après avoir regardé The Vast of Night, j'ai regardé un film français qui est sur Netflix qui s'appelle Lost Bullet ou Balle perdue en français. C'est un film d'action de 2020. Écoute, c'est rien de... C'est rien qu'on a jamais vu. C'est un criminel qui est le meilleur mécanicien, magicien de la vie. Et puis, il aide ce qui devient son petit frère par association à voler une bijouterie. Et puis, il rentre dedans avec un char, puis il passe au travers de genre 4 buildings. Donc, c'est le meilleur mécanicien de tous les temps parce que, écoute, il est capable de passer à travers du béton armé avec une Clio. Mais il peut pas s'enfuir parce qu'il est pogné dans sa ceinture, donc il se fait arrêter. Ça, c'est à peu près les 5 à 10 premières minutes du film. Il est en prison, il y a un policier du nom de Charas qui va le voir et qui lui donne une deuxième chance, qui lui dit « Écoute, on essaye d'arrêter des go-fast, qui sont des dealers de drogue en voiture qui vont vite. » Donc, c'est un peu le même principe que des go-fast à bateaux qu'on connaît plus, nous, en Amérique. Donc, des bateaux qui sont juste pour aller le plus vite possible à la côte, puis that's it, là, tu sais. Donc, eux ont appliqué le même principe, mais sur des voitures. Et donc, Charas le fait sortir de prison, Lino, de son nom. Charas fait sortir Lino de prison pour qu'il l'aide, bref, à faire que les voitures de police de merde de la France soient plus rapides pour attraper les BMW et Mercedes montées. Et par la suite, le policier lui amène une lettre comme quoi ça fait 9 mois ou je sais pas quoi, là, un nombre de mois X qui les aide et il lui dit « Ah, tu vas être pardonné, effectif la semaine prochaine. » Et donc, si tu amènes une lettre à quelqu'un pour dire que effectif, dans une semaine, tu vas sortir de prison, tu vas te faire buter. Et puis là, c'est un film de vengeance et de prouver que Lino, le mécanicien, est innocent et n'a pas tué Charas. Donc, c'est pas une histoire très... tu sais où est-ce que ça s'en va assez rapidement, mais l'action était le fun. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'action français. Fait que tu suis à... 2.5 sur 5. Là. Je recommande si vous avez envie de regarder. C'est ça, 2.5 sur 5. Je recommande si vous voulez voir un film d'action français fait en 2020. C'est sur Netflix. Donc, si vous avez Netflix, vous ne perdez à rien. C'est divertissant. C'est rien d'incroyable, mais moi, j'ai eu du plaisir quand même.
Fait qu'écouter Nicky Larson avant.
Oui. mais c'est peut-être plus dur à trouver, par contre.
Ah, donc, peut-être. Ouais. Voilà. Toi, Bruno.
Moi, je vais parler de l'affaire que j'ai regardée qui est plus récente, je pense. J'ai fini Ozark récemment, série Netflix. Il y a 3 saisons, dont la 3e qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. C'est une série qui m'avait été recommandée à quelques reprises par des gens en qui je fais confiance quand même. Donc, je me suis dit, bon, je vais l'essayer.
Est-ce que tu le fais encore autant confiance?
Je leur fais confiance. Je dirais je l'ai regardé jusqu'au bout. Je dirais que c'est une série qui devient meilleure avec le temps, définitivement. La première saison est très engageante, mais c'est un peu, ça peut être un peu nono par bout. Puis là, la deuxième saison, ça devient un peu meilleur, mais ça devient.
C'est quoi la Ozark?
La prémisse de Ozark, c'est un conseiller financier qui. Ça va pas pire ses affaires. Ils sont sur le point de se pogner un nouveau building, un nouveau office building, puis d'avoir plein de monde qui travaille pour eux autres. Puis, ils font
du cash. Va-tu finalement l'aimer puis le respecter?
Ils font du cash. Fait que ce gars-là, il a une famille, il a une femme, il a deux enfants, puis il a son partner avec lui. Puis à un moment donné, un soir, ils se font appeler par un de leurs clients, puis ils vont voir le client, puis le client, ben c'est, il travaille pour le deuxième plus gros cartel de drogue en Amérique du Sud.
Le deuxième,
ouais, c'est ça. Ça va revenir plus tard. Ben tu sais, je veux dire, il est nommé là, ils disent pas c'est le deuxième plus gros cartel.
We're number two.
C'est ça. Fait qu'il travaille pour un très gros cartel de drogue, puis, dans le fond, il s'est rendu compte qu'ils ont skimmé off the top, fait qu'il décide de toutes les tuer. Puis notre personnage principal réussit à s'en sortir en bullshitant que au lac des Ozarks dans le Missouri, il y a plus de coastline que tout l'État de la Californie. C'est plein de monde qui vont vouloir acheter des affaires. Ça va être super facile de blanchir de l'argent là-bas. Il y a pas de FBI qui est planté là-bas. Il les laisse tranquilles. Fait qu'il bullshit un peu cette histoire-là.
Il y a des licornes qui chient des cheeseburgers.
Ah ouais, c'est ça. Fait qu'il bullshit une idée, tu sais. Puis le gars, il dit, OK, je t'ai intrigué. Je te donne deux semaines ou quelque chose genre, ou un mois pour blanchir 80 millions, tu sais. Fait que là, il l'envoie là-bas. C'est moins que ça. Je pense que c'est 5 millions. Je pense qu'il dit, donne ou 10 millions, là, tu sais. Fait qu'il dit, je t'envoie là-bas. Alors, avec ta famille, tu pars demain. Il est mieux d'avoir un signe à vendre en avant de ta maison quand je passe en avant. T'envoies toute ta famille là-bas. Puis, tu sais, le gars, il était sur le point de tuer sa famille. Puis tout ça, là. C'était vraiment comme règlement de compte. Vous m'avez volé du cash. Tout le monde meurt, là, tu sais. Fait qu'ils s'en vont là-bas. Puis c'est comme un peu lui qui est mis face. Fait que c'est un peu comme Breaking Bad, mais
avec un comptable.
Avec un comptable, puis avec comme des éléments de Sons of Anarchy, parce qu'il se ramasse dans un monde très redneck, où est-ce que t'as comme eux autres, leur petit crime organisé sur place qui est très redneck. Fait qu'il faut comme qu'ils deal avec ce monde-là. Puis, fait que t'as plein de... C'est beaucoup de personnages intéressants. Ça crée des dynamiques intéressantes. C'est très soap opera, là. Ça fait penser à Game of Thrones sans les éléments fantastiques, mettons. Là, tu sais, là, c'est beaucoup de backstabbing, puis de trahison, puis de d'affaires des affaires, puis de pas le dire au monde pour les protéger, puis pour te protéger toi-même en même temps, puis que ça revient plus tard. Puis tu sais.
Comme dans Docteur Doolittle 2.
Exactement. Ouais, ouais. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, quand t'en as parlé de Docteur Doolittle 2, c'est ça, c'est la première affaire que je me suis dit. Je me suis dit, ça me fait vraiment pas beaucoup penser à Ozark. Ouais, c'est ça.
Fait que trois saisons.
Fait qu'il y a trois saisons, la troisième la troisième, je dirais, qui est clairement la meilleure saison à date. Entre autres, qui introduit un nouveau personnage. Puis ça, c'est tout le temps comme un peu plate quand ils font ça dans une série.
C'est un gamble. Ouais,
c'est ça. T'introduire un nouveau personnage dans la troisième saison, puis c'est un personnage qui est un peu plus grand que nature aussi. Mais c'est super intéressant qu'est-ce qu'ils font avec le personnage. Puis comme, en tout cas, spoiler, de toute façon, c'est pas vraiment grave parce qu'on s'en doute, mais tu sais, aussitôt que ce personnage-là est introduit, mettons, tu te fais comme, ah, nouveau personnage, il va mourir. C'est un peu ça qu'on se dit parce qu'ils ont trop bien établi leur personnage, puis tuer des gentils, c'est rendu tough. Fait que ils introduisent des nouveaux personnages pour les tuer.
Surtout qu'il n'a pas l'air d'en avoir tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça.
C'est le gars, puis sa femme.
Sa famille.
Son fils, puis ouais. C'est pas un peu ça.
Fait qu'il nous introduit ce nouveau personnage-là qui a été mentionné dans les saisons précédentes, mais c'est la première fois qu'on le voit dans la saison 3. Puis effectivement, il meurt à la fin de cette saison-là, mais ils ont tellement bien développé le personnage que c'est comme ça file mérité quand il meurt à la fin. T'sais, t'as pas juste l'impression qu'il tue un personnage parce que tu l'as aimé, à cette heure on le tue pour le shock value. T'sais, sa mort sert à quelque chose narrativement, thématiquement. Fait que c'est la très, très, très belle job d'écriture, je dirais, sur la troisième saison. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la quatrième.
Et voilà, t'as-tu l'impression que ça va finir à un moment donné? C'est tout le temps plus le fun qu'on a ce feeling-là.
J'espère. Je pense que j'ai moins l'impression, mettons, qu'il y a une finalité claire en vue que, mettons, justement, Breaking Bad ou Better Call Saul, tu sais, où est-ce que tu le vois qu'il y a vraiment un plan de finir l'histoire puis ça s'en vient, tu sais. Mais ils sont rendus à saison 3. J'imagine que c'est une affaire de 6 saisons, mettons, là. Tu sais, c'est rendu ça le standard, là.
Un petit peu, hein. Ouais. 6 seasons and a movie. Mais ouais. Il y a combien de temps entre chaque saison? Pas dans le show, mais je veux dire, débloquer les fonds, tourner la saison pis tout.
Ça sort à une par année. C'est une série qui est très populaire. Fait que je pense qu'il niaise pas avec ça. Quand la saison 3 sort, ils sont déjà en train de filmer la saison 4.
C'est un petit peu plus fun de même. T'as l'impression qu'au final, ça. L'histoire se tient plus. Pis,
ouais.
Pis tout, là. Fait que là, moi, mon feeling qu'il y a un magicien pis. Ça n'a pas rapport, là.
Ouais, non. C'est un lac. C'est un
magicien des livres comptables.
Ouais, c'est ça.
OK, c'est ça. Okay. Milan, excuse, tu voulais parler.
Ouais, il y a combien d'épisodes par saison, à peu près?
Je pense que c'est une affaire de 12, 10 ou 12.
OK, fait que c'est quand même raisonnable.
Ouais, c'est ça.
Souvent, ouais, ouais, tu es tombé dans le panneau de 20 quelques épisodes, puis là, ça finit plus de finir. Puis là, tu sais, comme, bon, ben, c'est une des raisons pourquoi j'embarque pas tant dans les séries.
C'est ouais.
Des épisodes de 45 minutes, puis t'as 24 écoutés, puis là, t'es rendu à la 12e saison. Un moment donné, c'est comme, bon, ben.
Ouais.
Ah, c'est gossant. Je suis en train de finir Mr. Robot, là.
Ouais. Ouais.
J'étais aux 3 derniers épisodes, puis ça a été long, là. C'est très bon, mais Chris, c'est...
Ouais, j'ai pas été capable, moi. À un moment donné, je te dirais, je pense que au début de la deuxième saison, j'ai fait comme, je pense que j'ai compris le principe, puis ça me tente plus.
Ben, la quatrième, c'est pas mal la meilleure saison.
Okay.
J'aime ça comment ça rappe. C'est bien filmé aussi. C'est pas trop stressant. Là. Je me sens en background en travaillant sur d'autres choses, là, mais je m'en dirais pas que j'ai hâte de passer au travail. Il y a encore des gros punchs. Il y a encore des gros punchs. J'étais à 4 épisodes de finir, puis j'ai pas l'impression d'être pris pour un cave.
Puis ça, Mr. Robot, je suis pas sûr. Est-ce que c'est comme si tu la dernière saison, la quatrième saison? Il va-tu y avoir une autre saison?
Non, c'est fini. Là.
C'est fini? OK. Bon, cool. Oui,
c'est fini. Le build-up aussi, il est pas pire. Il y a eu un épisode pas mal intense aussi dans la quatrième saison, genre le 8-9. Là, c'est un petit peu comme un huis clos avec un personnage qui build-up depuis la troisième, le début de la troisième. Là.
Mm-hmm.
En tout cas, c'est une des meilleures séries que j'ai vues, puis je sais pas si je la conseille. Là, comme Milan, moi, je n'écoute pratiquement jamais des séries. Je trouve que c'est un gros...
C'est un gros investissement de temps, là, effectivement. Moi non plus, j'en regarde pas beaucoup. Celle-là, je l'ai regardée juste parce que... Je sais pas pourquoi, en fait. Ça me tentait de regarder une série, je pense.
Ben, souvent aussi, c'est le genre de patente, tu peux comme peser play, puis tu sais que t'as comme quelque chose à faire, entre guillemets, pendant un bout de temps, vu que c'est chronophage à ce point-là.
Ouais,
voilà.
Effectivement.
Ouais, on arrive-tu au bout du show de cette semaine?
Je pense que oui, moi, on dirait.
On est comme tranquillement pas vite. Toi, Bruno, t'en penses quoi?
Ouais, moi, je pense qu'on a fini le show de cette semaine.
Fait qu'on va avoir jasé de toutes sortes d'affaires. Fais-tu le wrap-up, Milan? T'as bien fait ça tantôt. Là,
le wrap-up, je suis pas habitué, là, ça me stresse. Okay.
Prends des notes, là tout est prêt, la relève. Là, okay. Merci tout le monde d'avoir écouté ça. C'est notre podcast Critique Exquise. D'ailleurs, on a un petit peu parlé off-screen là, ou off-mic, mais... On va sûrement vous offrir des critiques de livres et de jeux vidéo avec le temps. Là. C'est des affaires dans lesquelles... Tu sais, ce qu'on pense que vous méritez, c'est notre opinion sur tout. Et voilà. Je pense qu'on va comme passer à cette étape-là à un moment donné. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci à podcast.com de nous héberger, Radio H2O. Le show est disponible aussi sur Spotify. N'hésitez pas à le partager à vos amis cinéphiles ou cinévores ou ces affaires-là. Merci beaucoup, Milan. Merci, Bruno.
Yeah.
Merci, Tommy. Yo. Merci à vous autres aussi. Là. Puis, on a de la merch, je pense, encore, en pesant sur le bouton. Sur notre Facebook. N'hésitez pas à partager des memes. Puis je pense que d'habitude, je vous souhaite la bonne bobine. Là, ne faites pas de même.
Bye.
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 Bye. Bye.